Cette parole de Jésus est comme du miel sous la langue. Combien de chrétiens épuisés, désemparés, comme ceux que tu nous as décrits ce matin. Combien d'entre nous épuisés ont puisé dans cette parole du Christ la force de reprendre la route, de se reconstruire intérieurement. Cette parole révèle en Jésus le visage de l'ami intime, du compagnon de route. Et elle fait, avec d'autres paroles bien sûr, elle fait de notre christianisme une religion de l'amour. Maintenant, il nous faut interroger ces paroles de Jésus, parce qu'il n'est pas impossible, est-ce que je prends un risque en disant ça ? Il n'est pas impossible qu'elles résonnent en nous un peu comme une chansonnette qu'on fredonne par cœur sans y penser vraiment. On joue léger, venez. Sœurs et frères, est-il vrai que la foi en Jésus nous rend la vie plus facile ? On va essayer de répondre à cette question. Alors, dans le contexte où ces paroles ont été prononcées, on est au premier siècle de notre ère, Jésus prononce ces paroles. Oui, il est évident que la foi dont il parle est un joug plus léger que celui de la Torah de Moïse. Pour faire simple, 2 commandements au lieu de 613. Aimer Dieu et son prochain, rien de plus, tout est dit. Alors, en nombre de choses à faire, vous conviendrez que c'est évidemment plus léger. Reste à poser cette question. Aimer, est-ce si léger que cela ? Aimer, n'est-ce pas se charger des préoccupations de l'autre, de sa faim, de sa souffrance, de ses besoins. Quiconque s'est aventuré sur ce chemin de l'entraide a compris que cela ne simplifiait pas la vie, que ça ne l'allégeait pas. Et d'ailleurs, en ce qui concerne notre propre chemin, suivre Jésus ne nous allégera d'aucune difficulté du quotidien. Nous continuerons à gagner notre pain à la sueur de notre front, à avoir des problèmes au travail, en famille, en amitié, en tout ce que vous voulez. Jésus, d'ailleurs, lui-même a eu faim. Il a connu la fatigue, il a connu le découragement, le besoin de solitude, il a connu la colère. Alors de quoi nous décharge-t-il ? De quoi nous décharge-t-il ? Depuis que je suis pasteur, ça fait quelques années, j'entends régulièrement raconter, vous l'avez quelque part, je suis prêt à parier gros là-dessus, quelque part dans l'esprit, dans la mémoire, j'entends raconter régulièrement l'histoire des traces des pas dans le sable. Ah, je vois que ça fait ça. Hein. Pour ceux qui... D'ailleurs, il faudrait dire la parabole des traces dans le sable, tellement cette histoire est devenue quasi biblique pour nombre de chrétiens de nos églises. Et il faut reconnaître que cette histoire des pas dans le sable parle de façon très émouvante de l'amour de Dieu. Je ne vais pas vous la raconter, mais elle dit que quand nous ne voyons plus les traces des pas du Christ marchant à nos côtés, ça ne veut pas dire qu'il a disparu au moment où nous avions besoin de lui. Cela veut dire, au contraire, qu'il nous a portés dans ses bras et que les traces dans le sable n'étaient pas les nôtres, mais les siennes. Vous connaissez cette histoire ? Jésus serait donc dans cette parabole des traces dans le sable, cet ami invisible qui nous décharge du poids de nos soucis en les prenant sur lui. Ce n'est pas ce que je lis dans la parole du jour. Il n'est pas question ici que Jésus nous aide à porter notre joug, mais il nous donne à porter le sien. Prenez sur vous mon joug. Pas la même chose. D'ailleurs, je n'ai jamais vu dans les évangiles Jésus aider une grand-mère à porter son sac de commission. Ou travailler, pour être plus dans le temps de l'évangile, à travailler à côté d'un laboureur, donner la main, aider. Non, sa manière d'aider à lui était d'un autre genre. Et la question retentit à nouveau, de quel repos, de quelle paix Jésus parle-t-il ici ? À quelle paix nous invite-t-il ? Sa parole s'adresse, je le crois, et ça fait vraiment résonance avec ton approche de ce matin, sa parole s'adresse à notre être intérieur, qui est un espace que personne ne voit, un espace profondément intranquille. Il existe en chacun de nous comme un ennemi intérieur qui produit de l'inquiétude, du mal-être, de l'angoisse, du doute. Ce mal-être est indéfectiblement lié à la pensée de la mort, vers laquelle nos existences s'acheminent, toutes avec plus ou moins d'aisance. Je puis avoir un toit au-dessus de ma tête, une bonne santé, je puis avoir un travail passionnant, des amis formidables, une femme merveilleuse. Il reste toujours ce petit bruit de fond. Cette gêne existentielle qui peut devenir une charge, un boulet à traîner, un cri assourdissant à certains moments de notre vie. Je connais des chrétiens très affermis dans la foi qui ne parviennent pas à se libérer de l'angoisse de vivre. C'est précisément sur cette charge-là, sur cette souffrance intérieure qui est commune à tous ceux qui portent le beau nom d'humain et de chrétien que le Christ veut travailler ce matin par cette parole. Il vient barrer la route à nos inquiétudes fondamentales. Évidemment, dans l'histoire, Jésus n'a pas été le seul à vouloir, à prétendre régler le problème de l'angoisse existentielle de ses contemporains. Les philosophes grecs ont beaucoup travaillé sur la question. Les stoïciens, eux, pensaient qu'en méprisant le corps et les choses matérielles, on parviendrait à mettre à distance tout là-bas les questions d'inquiétude et d'angoisse existentielle. À l'inverse, les épicuriens ont opté pour la formule magique qui plaît beaucoup aux jeunes. Carpe diem. Cueille le jour présent, jouis de la vie, et ainsi l'angoisse sera repoussée. Et d'autres philosophes ou pseudo-philosophes cherchent aujourd'hui cette paix en fusionnant, par exemple, avec la nature, la sylviothérapie. D'autres en faisant le vide au-dedans d'eux, en méditant. Je n'ai aucun jugement à prononcer par rapport à toutes ces approches. J'observe simplement que c'est sur une autre voie que le Christ veut nous entraîner. Nous entraîner même au sens sportif du terme. Hein, nous entraîner. La première chose qui peut soulager nos angoisses de vivre et de mourir, c'est d'entendre ici Jésus ne pas remettre en question la légitimité de ses tortures, de ses angoisses intérieures. Il ne dit pas, comme peut-être les maîtres du zen pourront le faire, Mets à distance tes émotions pour qu'elles ne te submergent plus. Non ? Jésus les reconnaît comme faisant pleinement partie de notre condition humaine. Il ne nous accuse pas non plus d'être ce que nous sommes. C'est de votre faute si vous êtes angoissé, si vous aviez un peu de foi, vous ne seriez pas aussi fragile. Vous entendez ça dans cette parole ? Non. Jésus accueille notre mal-être parce qu'il le connaît bien. Il partage notre condition. Il sait ce que c'est de ne pas se sentir à la hauteur. Il sait ce que le regard des autres et peut-être encore notre regard sur nous-mêmes peut engendrer comme culpabilité, comme détresse, comme sentiment d'être nul, d'être inutile, sans valeur. D'ailleurs, combien de personnages bibliques prestigieux ont ressenti bien avant nous, comme nous, ces mêmes angoisses incontrôlables et dévastatrices. Je pense à ces deux femmes, Rebecca, la stérile, qui tombe enceinte de deux jumeaux, Ésaü et Jacob, et qui soudain, alors qu'elle les porte, hein, désire mourir plutôt que de donner la vie. Sorte de dépression prépartum. À quoi bon vivre, crie-t-elle à Dieu. Elle porte ses enfants au moment où elle dit ça. Et je pense aussi à Rachel, la femme de Jacob, une génération et qui est dévastée, elle, par sa stérilité. Et elle va aller trouver son mari pour lui dire, dans une colère monstre, « Fais-moi un petit ou je meurs !» J'entends Jésus nous dire cette parole parce qu'il entend le cri de notre existence, quel qu'il soit. Il n'y a pas que des stérilités maternelles qui peuvent faire l'objet d'angoisses profondes. Jésus ne propose pas pour contrer cette angoisse une sorte de sagesse ou des exercices spirituels ou la pratique de nouveaux commandements qu'on ne connaissait pas, efficaces pour nous guérir. Non, il ne propose rien de tout cela. Ce qu'il nous propose, c'est, vous l'avez entendu dans le texte, si on peut l'afficher, hein, c'est peut-être mieux de l'avoir tout entier là, il nous propose de devenir, de nous mettre à son école, autrement dit de devenir disciples. Il ne nous propose pas une meilleure lessive qui lave plus blanc ou un joug sympa, plus aérodynamique, fabriqué d'un bois ultra léger, technologie high-tech pour la fabrication des jougs, non. Le joug qu'il propose n'est pas plus léger en réalité. Il est la légèreté elle-même. Le joug du Christ, c'est la grâce libératrice de Dieu. Il veut que nous soyons portés par ce qui le porte lui. Écoutez-le. Je suis doux et humble de cœur. Je suis l'affirmation de l'existence. J'existe de cette manière-là. Mon existence est reconnue par Dieu. Elle a de la valeur. Frères et sœurs, vous entendez ce matin que nous n'avons pas à légitimer nos existences par notre utilité, par nos réussites, nos talents, nos projets, nos ascensions sociales ou intellectuelles. Stop. Stop. Si nous en sommes là, si nous en sommes à cet esprit comptable dans notre vie, alors il est temps de faire chemin à l'envers et de redevenir des petits-enfants des nouveau-nés. Regardez comme ils sont. Il faut réapprendre comme eux le béaba, c'est-à-dire l'immense dignité qu'il y a de respirer, d'en avoir conscience, d'être là, d'ouvrir les yeux sur la vie. À la maternité, au moment de l'accouchement, ça fait mal. Hein, quand la première inspiration se fait, c'est paniquant et ça fait pleurer les bébés. Mais après, qu'est-ce que c'est bon de se sentir vivant. Ce n'est pas un hasard si Jésus donne en exemple les tout-petits. En plus de son oui à la vie, le tout-petit a aussi cette splendide capacité à se laisser vivre dans la présence de l'autre. C'est merveilleux. Il sait qu'il doit être accueilli et que sa vie en dépend. Il le sait, il l'accepte. C'est cela, devenir disciple. C'est peut-être pas faire des prouesses de sainteté. C'est accepter d'exister et d'être accueilli, d'être reconnu, d'être accepté de Dieu tel que nous sommes. Nous n'avons pas à nous battre pour rendre nos existences plus légitimes. Elles le sont, dans le regard de Dieu. Voilà le fardeau que Jésus nous invite à prendre sur nous. Celui de l'infinie légèreté de l'être qui croit. La légèreté d'une existence qui se sait aimée, acceptée, reconnue, graciée. De ne plus avoir à conquérir le droit d'être soi. Alors oui, vous me direz que Jésus parle quand même ici d'un joug. Aussi léger et doux soit-il, il reste un joug. Alors, peut-être faut-il changer notre logique. Si nous voulons comprendre le sens de ce mot dans la bouche de Jésus. Pour nous, un joug, c'est un poids qui entrave la liberté. Peut-être une image de la religion qui exige toujours plus de fidélité, plus de sainteté, plus de bonnes œuvres. Et qui, avec ce plus, ces plus, remplit nos vies de culpabilité, de désespoir, d'amertume. Ce joug-là n'est pas doux, il est écrasant, il est puissant, épuisant, désespérant. Alors, à la suite du Christ, nous sommes appelés à agir par gratitude seulement, en répondant à la parole d'accueil, de reconnaissance et de libération que Dieu prononce aujourd'hui sur nos vies. Un appel comme celui-là donne des ailes, chers amis. Entendez-vous cet appel du Christ ? À chacun d'entre nous, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen.